Vous écoutez France Culture. L'heure de retrouver le journal avec vous, Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. L'Italie a adopté hier soir un décret-loi sur la sécurité dont la finalité n'est autre que de venir durcir la politique d'immigration voulue par le chef de la Ligue d'extrême droite, Matteo Salvini. Le texte met notamment en place une réforme du système d'accueil et vise des expulsions plus rapides.
À la veille de l'ouverture du sommet du G20, Donald Trump doit arriver ce soir à Buenos Aires.
Oui, un sommet au cours duquel l'impulsif président américain ne devrait pas manquer de mettre la pression sur ses homologues à la fois chinois et russes.
Bien qu'inflexible sur la hausse des taxes sur le carburant, le gouvernement entend faire la preuve qu'il reste ouvert au dialogue.
Et c'est ainsi que ce matin, Édouard Philippe a entamé pour deux jours une série de consultations des corps intermédiaires afin de préparer la fameuse grande concertation de terrain promise par Emmanuel Macron face à la fronde des gilets jaunes. Eux dénoncent à leur tour la baisse du pouvoir d'achat, mais aussi les réductions d'effectifs. Ce sont les électriciens et gaziers d'EDF qui sont appelés à faire la grève aujourd'hui.
Dans votre journal également, comment mieux concilier activité économique et utilité sociale.
Et le gouvernement présente aujourd'hui un pacte de croissance de l'économie sociale et solidaire, extrêmement attendu dans ce secteur qui pèse pas moins de 10% du PIB en France.
Enfin, nous sommes jeudi, le 29 novembre pour être plus précise, et c'est le jour de l'interview politique aujourd'hui.
Oui, invité dans une vingtaine de minutes, Jordan Bardella, porte-parole du Rassemblement National et conseiller régional d'Île-de-France. Et puis à 12h55, Olivier, ce sera la grande table des idées.
On a du mal avec les noms et les prénoms aujourd'hui, donc ce sera Olivia pour moi. Merci Thomas. Défendre, c'est épuiser l'idée du mal dans l'actualité des idées aujourd'hui. On reçoit un avocat, Maître Thierry Ilouze. Il publie Même les monstres. Il va se poser la question de la justice, de l'injustice, mais aussi de bien distinguer les figures du bien et du mal. On en parlera avec notre invité à partir de 12h55.
Merci, à tout à l'heure. C'est probablement la loi la plus raciste de ces 15 dernières années en Italie. Hier, le ministre de l'Intérieur d'extrême droite, Matteo Salvini, ne cachait pas d'ailleurs son immense satisfaction après que la Chambre des députés a adopté le décret-loi qui porte non seulement son nom, mais plus encore toute la perfidie de sa stratégie qui aura réussi à faire passer une loi pour ce qu'elle n'est pas présentée comme au service de la sécurité. Ce texte est en réalité essentiellement dirigé contre les migrants. Alors ce texte prévoit entre autres choses une procédure d'urgence afin de pouvoir expulser tout demandeur se montrant, je cite, « dangereux » et l'on pourrait ainsi multiplier les exemples tendant à prouver que ce décret-loi ne vise donc qu'un seul objectif, durcir la politique d'immigration. Les précisions à Rome de notre correspondante Mathilde Imberti.
Le décret-loi immigration et sécurité passe haut la main à la Chambre des députés, 396 voix pour, 99 contre. À noter un début de dissidence tout de même dans les rangs des 5 étoiles, pourtant membre de la coalition gouvernementale. 14 députés des 5 étoiles n'ont pas pris part au vote. Ce texte est estampillé Ligue à 100%, souhaité par Matteo Salvini, martelé durant toute la campagne électorale. Il vise à réduire le nombre d'étrangers sur le sol italien et faire dépenser moins d'argent public pour leur intégration. Comment ? En supprimant les permis pour protection humanitaire, accordés aujourd'hui à un demandeur d'asile sur 4. En expulsant en urgence les personnes reconnues comme dangereuses, coupables de délits. En allongeant également le temps d'attente dans les centres de rétention pour augmenter le nombre d'expulsions. En ce qui concerne l'intégration, le système actuel de centres d'accueil de petite ou moyenne taille répartis sur le territoire et qui fournissait aux demandeurs d'asile des cours de langue, par exemple, ce système est revu. Le ministre de l'Intérieur veut des grandes structures accueillant des centaines de demandeurs d'asile et moins coûteuses. Matteo Salvini, qui poursuit sur sa lancée radieux ce matin, il s'est présenté devant la presse, se félicitant de l'adoption de ce texte, symbole pour lui d'une reprise en main. Dans son volet sécurité, le décret-loi élargit l'usage des pistolets taser et facilite les évacuations des immeubles occupés. Inarrêtable, le chef de la Ligue veut aller plus loin, promet de s'attaquer à une autre de ses promesses, la légitime défense. Le cas d'un entrepreneur toscan cambriolé une trentaine de fois et qui a fini par tirer et tuer son agresseur fait la une en Italie. Le ministre de l'Intérieur vient de lui apporter son soutien.
Et j'ajoute qu'au même moment où l'Italie adoptait hier ce décret controversé, le gouvernement de Rome annonçait par ailleurs qu'il ne signerait pas le pacte de l'ONU sur l'immigration, comme s'y était engagé le précédent exécutif de centre-gauche dirigé à l'époque par Matteo Renzi. Ce pacte mondial, soumis à approbation lors d'un sommet les 10 et 11 décembre prochains à Marrakech, déchaîne aujourd'hui les passions, de sorte que l'Italie ne fait en réalité qu'ajouter son nom à la déjà très longue liste de tous ceux qui ont choisi soit de geler leur décision, soit de renoncer renoncé carrément à signer ce texte. Les États-Unis, l'Australie, Israël, mais aussi la Hongrie, la Pologne, l'Autriche, la Bulgarie, la Slovaquie, la République tchèque, ainsi que la Belgique, même la Suisse, se trouvent aujourd'hui confrontés à une opposition parlementaire. Enfin, si depuis 2015, la crise migratoire aura provoqué un ébranlement profond du rapport des forces politiques partout dans le monde, elle reste surtout marquée quasi quotidiennement par ces images d'hommes et de femmes désespérés autant que résolus sur leurs canaux de fortune. Hier, 564 migrants à bord de 12 embarcations précaires ont encore été récupérés en mer Méditerranée face aux côtes méridionales de l'Espagne. 3 autres ont été retrouvés morts. Quant au bateau de pêche espagnol dont vous nous parlions hier, lequel erre depuis une semaine en pleine mer Méditerranée avec 12 migrants à son bord, le gouvernement espagnol indiquait être en contact avec l'Italie et Malte en vue de lui trouver un port d'accueil. Et que dire à présent de la crise climatique? Selon un rapport de l'ONU publié cette semaine, les émissions de gaz à effet de serre ont atteint un record historique l'an dernier. Preuve que la COP24, qui doit s'ouvrir ce week-end en Pologne, aura bien pour défi principal de parvenir à sauver l'accord de Paris, comprenez, garantir 3 ans plus tard son application réelle. Enfin, la nouvelle administration brésilienne a annoncé hier qu'elle renonçait finalement à organiser la prochaine COP25 l'an prochain. Alors les positions controversées du tout nouveau président d'extrême droite sur l'environnement sont connues, mais la raison officielle avancée par les autorités tiendrait aux restrictions budgétaires. De son côté, l'Argentine a beau vivre son pire moment économique depuis la crise de 2001, cela ne l'empêchera pas d'accueillir demain et pour la première fois de son histoire les chefs des plus grandes puissances mondiales lors du G20, un sommet qui devrait être dominé par des affrontements bilatéraux au cours desquels les faits et gestes d'un certain président américain, chantre de l'America First, seront plus particulièrement scrutés à la loupe. Les explications de Grégory Phillips.
En marge de ce G20, Donald Trump a prévu d'enchaîner les réunions bilatérales. La plus scrutée sera celle avec Vladimir Poutine. Le président américain s'est dit très préoccupé par l'escalade des tensions en mer Noire entre les marines russes et ukrainiennes. La rencontre entre les deux hommes se fera sous un gros nuage, celui de l'enquête menée aux États-Unis sur une éventuelle collusion avec Moscou pendant la présidentielle de 2016. Autre rencontre capitale qui se jouera à Buenos Aires, ce dîner de travail prévu avec le chinois Xi Jinping et au menu la guerre commerciale qui oppose Pékin à Washington. C'est la première fois que les deux hommes se retrouveront depuis que les deux nations se sont imposées mutuellement des taxes sur leurs importations respectives. En revanche, il n'est pas prévu de rencontre avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, alors que le département d'État américain, hier encore, semblait dédouaner le régime saoudien dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Il faudra voir enfin dans quel état d'esprit Trump arrive à Buenos Aires. On se souvient que l'an passé à Hambourg, les débats avaient été houleux, notamment sur le climat. Il est peu probable que le président américain arrive cette année plus ouvert sur la question, lui qui en début de semaine répétait qu'il ne croyait pas au réchauffement climatique.
Direction le Sahel, à présent l'une des zones les plus dangereuses du monde, sous la menace djihadiste depuis maintenant presque 20 ans. Alors pour lutter contre les terroristes, basés tout particulièrement au nord Mali, plusieurs forces militaires sont actuellement actives dans cette région, les soldats français de Barkhane, les casques bleus de la MINUSMA. Quant aux pays de la région, eux se sont regroupés au sein du G5 Sahel. Le problème, c'est que le financement de cette force militaire conjointe, promise par la communauté internationale, tarde encore à se mettre en place. Je vous propose d'écouter le reportage de notre envoyé spécial Claude Guibal à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, au cœur de la zone dite rouge, classée ainsi depuis la vague d'attentats et d'enlèvements ayant frappé le pays.
Autour de nous, à perte de vue, il n'y a que du sable et sur une petite butte devant, des véhicules militaires, leurs canons tournés vers l'horizon.
Tout ça, c'est la frontière malienne. Il n'y a pas de balise qui limite la ligne de la frontière, pas d'arbres, un terrain dégarni de toute végétation où la vie est pratiquement impossible.
L'homme qui parle, c'est le colonel Sidi Ahmed Oul Mohamed, le chef du bataillon mauritanien du G5 Sahel.
La menace, c'est toujours les groupes puisqu'ils djihadistes de l'autre côté. Il faut toujours s'attendre à être attaqué d'une manière ou d'une autre.
La menace, elle porte un nom, ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui avec d'autres groupes djihadistes font régner la terreur depuis le Mali. Les soldats, ici, viennent tout juste de recevoir leur gilet pare-balles financé par l'Union européenne. Son programme d'appui à la Mauritanie va bientôt construire ici une piste d'atterrissage et creuser un forage essentiel pour ne pas que les militaires ne s'aliènent les populations locales en puisant dans le peu d'eau que se partagent nomades et éleveurs. Car ni les armes ni les radars ne suffisent pour surveiller l'immensité désertique. Les seuls qui en maîtrisent les secrets, ce sont les tribus locales, ces Touaregs, au visage masqué de bleu, ces éleveurs comme ce vieil homme qui apparaît dans la poussière des piques. C'est le chef du village de Wadi Initi. Face à nous, il y a ce sentier qui grimpe sur le plateau qui mène au Mali. C'est un des très rares endroits où une voiture peut passer. En donnant l'alerte il y a quelques années, le village a permis de déjouer un attentat kamikaze contre l'armée.
Si jamais les gens abandonnent le site, ce passage vers le Mali devient possible sans aucune surveillance.
François-Xavier Ponce pilote le programme d'appui de l'Union européenne à la Mauritanie.
Il est très important que les populations qui sont ici soient vraiment très fidèles à l'État et puissent rendre compte en cas d'infiltration.
Pour maintenir l'existence du village, l'Union européenne va ainsi financer ici une école, des programmes d'assistance aux transhumants, des services vétérinaires, une clinique médicale mobile. Tout cela est crucial pour s'attacher à la loyauté des populations dans ces terres délaissées par l'État central, ces zones grises fertiles pour le djihadisme, le narcotrafic et les preneurs d'otages.
Un reportage à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, signé Claude Guibal. Alors que les députés se penchent aujourd'hui sur une question sensible, faut-il interdire la fessée aux enfants? Question de nature sans doute à relancer une controverse toujours vive sur la vertu soi-disant éducative des châtiments corporels, où le proverbe « qui aime bien, châtie bien » a toujours ses partisans en France. Le gouvernement, lui, s'interroge toujours sur les corrections à apporter pour soulager la colère des gilets jaunes. Depuis ce matin, et conformément au changement de méthode voulu par le chef de l'État, le Premier ministre reçoit les membres du Conseil national de la transition énergétique, à ne pas confondre avec le tout nouveau Haut Conseil pour le climat, même s'il s'agit bien là aussi d'un organe consultatif sur l'environnement et l'énergie. Sophie Delpont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Matignon. Édouard Philippe dialogue donc depuis ce matin avec une cinquantaine de membres de divers horizons, patronats, syndicats, ONG, sociétés civiles, mais aussi des élus locaux et parlementaires. En d'autres termes, des représentants des fameux corps intermédiaires auxquels viendront s'ajouter demain une délégation de gilets jaunes. Alors sur la forme, on comprend bien le message, faire la démonstration que l'exécutif ne reste pas sourd aux préoccupations remontées du terrain. Sur le fond, en revanche, dans la mesure où le gouvernement reste dans le même temps inflexible sur le cap fixé, à quoi peuvent bien aboutir de telles discussions ?
Eh bien, sur le fond, il faudra encore attendre demain la rencontre avec les gilets jaunes, car pour l'instant, c'est une tentative de reprise en main du politique pour tenter de canaliser la colère, une manière pour l'exécutif de s'appuyer sur les élus des territoires pour jouer les médiateurs, pour dénouer cette crise. Jean Rottner est président LR de la région Grand Est et représentant de l'Association des régions de France. Il salue ce changement de méthode, mais demande un geste.
Le ton a changé depuis le discours du président de la République il y a quelques jours. Là, un entretien convivial. On a essayé d'être le plus constructif possible, toutes les associations d'élus. Et nous avons proposé à l'échelon régional une forme de conférence des territoires en lien avec l'État. Pour autant, nous avons précisé également au Premier ministre la nécessité au minimum d'avoir une forme de moratoire sur toute taxe supplémentaire sur l'essence au 1er janvier pour un climat, pour une concertation apaisée.
Philippe Rio est maire communiste de Grigny et vice-président de l'association Ville et Banlieue. Il va plus loin, il réclame.
Un geste fort avant les fêtes de Noël. Nous ne sommes pas les fiscalistes de ce pays. Il nous a été rappelé qu'il y a un cadre et un cap. On est en pleine loi de finances. J'ai émis l'hypothèse qu'en pleine loi de finances, travaillé à l'Assemblée nationale, au Sénat, il y avait une fenêtre de tir pour répondre concrètement avant Noël à cette situation, pour recréer du calme qui permet de trouver des solutions immédiates, pérennes, à moyen et long terme.
Le Premier ministre discute en ce moment même avec les représentants du MEDEF, des représentants des petites et moyennes entreprises et de la FNSEA notamment, avant de rencontrer demain les Gilets jaunes.
Merci Sophie Delpont en direct de Matignon avec Georges Thau pour les moyens techniques. En présentant cette semaine les grandes orientations de la programmation pluriannuelle de l'énergie, si le président Emmanuel Macron est venu clarifier ce qu'il attend d'EDF, notamment en précisant combien l'entreprise devra fermer de réacteurs nucléaires pour ramener la part de cette énergie à 50% à l'horizon 2035, il n'a visiblement pas franchement rassuré ses salariés qui craignent désormais des suppressions de postes. La CGT Énergie appelle d'ailleurs à la grève en ce sens aujourd'hui. Comment garantir à EDF des revenus dans le cadre de la transition énergétique? C'est évidemment toute la question. Je vous propose d'écouter Patrice Geoffron, économiste et directeur du département énergie-climat à l'université Paris-Dauphine. Il répond à Hakim Kasmi.
Néanmoins, derrière tout ça, évidemment, on a des modifications et une pression qui s'exerce sur EDF parce que les technologies sont en train de se modifier, parce que la concurrence sur le marché de détail est une concurrence qui est de plus en plus vive. On a vu tout récemment entrer des acteurs aussi différents que Total et Leclerc et qui, évidemment, sont des acteurs potentiellement puissants. Et donc, tous ces éléments font que EDF va exercer son activité, qui est une activité assez compliquée en période de transition énergétique, dans un environnement très différent, à la fois sur la manière de produire de l'électricité et sur la manière de la distribuer à l'autre bout de la chaîne. La difficulté d'EDF, finalement, elle est assez parallèle d'un certain point de vue à celle de la SNCF, qui a accumulé également une dette, qui est une dette assez significative. Et dans les deux cas, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on a à la fois des fleurons français qui ont beaucoup, beaucoup contribué à faire que notre pays soit un des moins émetteurs de CO2. EDF, évidemment, pour l'électricité, l'énergie de manière générale, et puis par ailleurs, la SNCF pour la mobilité. Mais on a du mal à valoriser les bénéfices produits par ces entreprises, parce que ces bénéfices, c'est du CO2 qui n'est pas émis, ces bénéfices, ce sont des particules fines qui dégradent la qualité de l'air et qui ne sont pas émises. Et aujourd'hui, les mécanismes économiques, les mécanismes de marché en particulier, ne valorisent pas suffisamment ces bénéfices pour la collectivité.
C'est un secteur méconnu et pourtant il représente pas moins de 10% du PIB et emploie près de 2,5 millions de salariés. Ces secteurs sont actifs dans des domaines aussi variés que la lutte contre le chômage, l'illettrisme, le décrochage scolaire, mais aussi la prise en charge des personnes âgées ou handicapées ou bien encore la protection de l'environnement. Et c'est pour leur venir en aide que le gouvernement, après moult reports, a choisi donc de présenter enfin aujourd'hui un pacte de croissance pour l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Alors comment concilier activité économique et utilité sociale? Les précisions de Catherine Pétillon.
Voici enfin les mesures annoncées il y a un an dans ce même ministère de la Transition écologique. Ce qui est alors le Social Business Act a depuis été rebaptisé Plan de croissance pour l'économie sociale et solidaire. Un plan maintes fois repoussé et élaboré sans concertation, déplorent les principaux acteurs du secteur. Ce que le haut commissaire présente comme la première stratégie globale pour l'économie sociale et solidaire s'articule autour de trois axes. D'abord, faciliter le développement des structures de l'ESS, en particulier à deux moments critiques aujourd'hui, le lancement et ce qu'on appelle le changement d'échelle. Beaucoup de structures ont du mal à grandir. Le plan comporte une série de mesures parfois techniques, comme le relèvement du plafond du chiffre d'affaires que peuvent faire les associations au-delà des 60 000 euros par an actuels. Des financements aussi via le fonds d'innovation sociale qui passe de 10 à 21 millions d'euros et trois autres fonds seront créés. Pour faciliter le financement est également prévu un référentiel définissant l'innovation sociale. Deuxième axe, faciliter la reconnaissance de l'ESS via une réunion interministérielle annuelle. Enfin, passer cette économie au cœur des politiques européennes. Reste à savoir si cela suffira à contenter les acteurs du secteur, pour beaucoup échaudés par certaines mesures du début du quinquennat, en particulier la réforme de l'ISF qui a entraîné la baisse des dons et la réduction drastique des contrats aidés a mis en difficulté un grand nombre d'associations, surtout les plus petites. Le plan sera formellement présenté cet après-midi au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire.
12h48 sur France Culture, comme chaque jeudi à présent, l'interview politique. Invité aujourd'hui, Jordan Bardella, porte-parole du Rassemblement National, directeur de Génération Nation et conseiller régional d'Île-de-France. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Anne Fockenberg. Bonjour Anne.
Bonjour.
Une première question, monsieur Bardella. J'évoquais en début de ce journal l'adoption hier en Italie d'un décret-loi sur la sécurité qui vise essentiellement à durcir l'immigration. On aurait plutôt tendance à considérer que vous êtes favorable à ce genre de loi. Est-ce le cas?
Oui, mais je vous ai surtout entendu parler de racisme et de perfidie, ce qui me choque quand même relativement parce que nous sommes sur le service public et je crois que les journalistes du service public ont un certain devoir de neutralité. Et si vous voulez entendre le service public parler de la sorte d'un ministre de l'Intérieur italien qui est trois fois populaire que le président de la République, je pense que ça me surprend et ça fera plaisir aux Français qui financent Radio France. Nous sommes évidemment en total accord avec la politique de Monsieur Salvini, comme l'est de toute manière 70% des Italiens. Monsieur Salvini, il a été élu pour mener une politique effectivement de fermeté à l'égard de l'immigration clandestine. L'Italie a accueilli un peu plus de 700 000 personnes sur ses côtes depuis 2013 et les Italiens, ils ont dit basta. Ils ont mis au pouvoir monsieur Salvini pour qu'il réoriente les milliards d'euros qui étaient déversés dans l'immigration clandestine vers son propre peuple. En quelques mois, on peut se féliciter qu'il ait fait par un simple effet de dissuasion baisser les demandes d'asile de 65% pour je crois, le plus grand bonheur des Italiens. Et j'en veux pour preuve le sondage qui est paru ce week-end, qui met la Ligue, le mouvement de Matteo Salvini, à un peu plus de 36% d'intention de vote pour les élections européennes de mai prochain.
Alors j'évoquais effectivement une perfidie dans la mesure où il y a une sorte d'imposture en termes de terminologie. Pourquoi le gouvernement italien n'a pas tout simplement appelé ce décret-loi, un décret-loi sur l'immigration plutôt que la sécurité?
Parce que je crois que beaucoup de nos concitoyens ont le sentiment qu'il y a un lien effectivement entre l'immigration et l'insécurité, et que loin d'être la richesse et le vivre ensemble que nous vendent le conformisme et l'idéologie dominante, je crois que l'immigration est une réalité très concrète qui pèse au quotidien évidemment sur les finances publiques, mais aussi sur le vivre en paix dans un certain nombre de territoires, que ce soit en France ou en Italie. Il faut entendre aujourd'hui les peuples, il faut entendre aujourd'hui la volonté des peuples. Il y a une majorité de Français aussi dans notre pays qui souhaitent que nous mettions fin à la politique migratoire. Un peu plus de 60% des Français s'étaient opposés à l'accueil de l'Aquarius il y a quelques mois. Et donc je crois que les Français aujourd'hui, ils attendent, comme les Italiens, qu'on défende leur identité et qu'on rétablisse effectivement des frontières nationales.
Une question d'Anne Fauquemberg.
Comment vous percevez les actions de Génération Identitaire, mouvement qui dénonce à répétition l'ONG SOS Méditerranée, comme en octobre dernier, quand une vingtaine de militants sont entrés de façon brutale dans le local marseillais de cette association d'aide aux migrants? Votre regard, Jordan Bardella, sur ces actions?
Mais moi, j'ai pas de critique particulière à poser sur Génération Identitaire, dans la mesure où Génération Identitaire est un mouvement indépendant, c'est un mouvement activiste, militant. Nous sommes un parti politique, nous sommes un mouvement politique. Nous avons d'ailleurs mené, nous, avec Génération Nation, qui est le mouvement de jeunesse du Rassemblement National, une journée de convergence avec les jeunes de la Ligue cet été sur la question migratoire, parce que je crois que c'est à la frontière italienne, je crois que c'est une préoccupation des deux côtés de la frontière. Et nous défendons effectivement cette fermeté à l'égard de la politique migratoire dans le cadre démocratique républicain qui est celui des institutions de la République.
On entend Génération Nation, le mouvement de jeunesse du Rassemblement National. On entend Génération Identitaire, une répétition donc de ce mot génération. Elle est où la distinction entre ces deux mouvements?
Oh ben, on aurait pu aussi dire qu'on entend Génération de Monsieur Hamon. Donc je crois que Génération incarne effectivement aujourd'hui beaucoup de jeunes qui dans notre pays ne se sentent plus représentés par les instances politiques. Je crois qu'une grande majorité de jeunes aujourd'hui qui ont été effectivement confrontés très tôt au chômage de masse, à l'insécurité, à l'immigration massive, aspirent aujourd'hui à une nouvelle offre politique dans notre pays. Moi, je me réjouis que les derniers sondages placent le Rassemblement National en tête des intentions de vote chez les jeunes pour les élections européennes. Et nous allons tout faire et faire en sorte d'aller convaincre un maximum de jeunes dans les mois prochains, parce que je pense que la jeunesse doit reprendre son destin en main, et elle le fera, je l'espère, aux élections européennes.
Alors, Génération Nation, c'est aussi une réserve de cadre pour le Rassemblement National. Vous-même, oui, vous avez fait rapidement vos classes, puisqu'on vous annonce comme potentielle tête de liste Rassemblement National pour les européennes. C'est une place que vous ne refuseriez pas.
Écoutez, il y a plusieurs possibilités. Moi, je n'ai pas fait acte de candidature, mais j'ai fait savoir que j'étais à la disposition de Marine Le Pen et des instances de notre mouvement. Il y a plusieurs candidatures, encore une fois. Ça sera tranché par les instances du mouvement dans les prochains jours. Et nous présenterons une grande liste de rassemblements le 13 janvier aux Français, avec des gens qui seront évidemment issus du Rassemblement National, des gens qui sont issus d'autres partis politiques et des gens qui seront issus de la société civile, parce que je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on se rassemble pour défendre la nation dans le cadre de ces élections, européennes.
Et en quoi vous seriez plus légitime que Nicolas Bay, actuel eurodéputé, pour cette place?
Mais écoutez, moi je réserve mon avis pour les instances internes. Nicolas Bay est aussi effectivement candidat, il a beaucoup de qualités, il est coprésident de notre groupe au Parlement européen. Maintenant, encore une fois, voilà, il y a plusieurs candidatures, tout cela sera débattu dans nos instances dans les prochains jours.
Un mot de la parité pour terminer, Jordan Bardella, 79 candidats à trouver pour les européennes en alternant une femme, un homme. Sur les listes, Marine Le Pen, elle sera en dernière place. Volonté peut-être de ne pas perdre cet espace précieux de parole qu'offre l'Assemblée nationale. Alors on sait qu'il y a un électorat féminin au Rassemblement national, mais comme tous les partis politiques, c'est peut-être plus compliqué de trouver des femmes cadres. Comment vous abordez cette question?
Non, écoutez, nous avons beaucoup de femmes élues dans nos conseils régionaux, dans nos conseils municipaux, qui font un excellent travail sur le plan local. Je rappelle quand même que dès les élections législatives de 2012, nous étions le parti politique à présenter le plus de femmes, bien plus que les Républicains ex-UMP à l'époque. Maintenant, moi, je suis contre effectivement ce principe de parité dans la loi, parce que, je veux dire, à ce moment-là, on impose aussi des quotas paritaires entre les ouvriers, les fonctionnaires, fonctionnaires, les salariés, etc. Mais nous respectons la loi.
C'est une question qui n'avance pas. Je pense que s'il y a un débat
aujourd'hui à mener sur les droits des femmes et sur la parité, je pense qu'il doit se mener au niveau salarial. Et moi, si vous voulez, le vrai sujet qui est pour moi la première préoccupation des droits des femmes aujourd'hui, c'est le recul des libertés qu'elles subissent aujourd'hui dans un certain nombre de territoires où des femmes ne peuvent plus sortir à partir d'une certaine heure sans crainte d'être agressées, où le fondamentalisme islamiste dans un certain nombre de quartiers impose aujourd'hui à des femmes de porter un voile pour ne pas être agressées, pour être tranquilles dans l'espace public. Donc je pense que s'il y a un vrai débat aujourd'hui à ouvrir sur le droit des femmes, c'est peut-être celui-là, avec évidemment la question des salaires.
Et on terminera là-dessus. Merci Jordan Bardella,
merci
porte-parole du Rassemblement National, et merci Anne Fauquemberg. On termine avec un mot rapide du temps pour aujourd'hui, avec des grisailles qui s'accompagneront de rafales de vent et de pluie sur un large quart nord-ouest du pays. Partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies. Les températures, elles afficheront entre 10 et 17 degrés cet après-midi. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.